Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Vous venez d'écouter ce petit jingle que vous entendez actuellement, ça veut dire qu'une émission est en cours, il est 18h et c'est parti pour une heure d'émission. Aujourd'hui nous allons parler des transidentités, nous avons déjà fait une apérophonie dessus il n'y a pas longtemps de ça, bon je crois environ un mois par là ou en tout cas un petit peu moins, et nous avons abordé quoi ? Nous avons abordé la santé mentale des personnes transgenres, et aujourd'hui c'est un petit peu une suite, ou en tout cas c'est un lien. Et je suis toujours avec Lisa des ERE, bonjour à toi.
Bonjour.
J'espère que tu vas bien.
Ça va très bien, merci.
Sois encore une fois la bienvenue avec nous. Et du coup aujourd'hui nous allons parler de quoi, Lisa, à ton avis ?
Eh bien aujourd'hui nous allons parler des accompagnements médicaux et alternatifs qui existent pour les personnes trans et non binaires en France. Et également du rapport des personnes trans au monde médical et à l'accès à de bonnes formes de thérapie et de soins.
Et du coup, pour aujourd'hui, nous avons des invités qui pourront y répondre et ils vont nous en témoigner en tout cas. Nous sommes aujourd'hui avec Léna Aka. Bonjour.
Bonjour.
Tu es du coup orthophoniste en féminisation vocale.
Oui, c'est ça. Pour l'instant étudiante, mais dans un mois, ça sera le cas.
Bon, merci beaucoup. Et bonjour à toi, en tout cas, sois les bienvenus. Et nous sommes aussi avec Maë Bitard. Bonjour à toi.
Bonjour.
Qui est, du coup, tu es, du coup, alors je l'ai pas le mot, j'arrive pas, j'ai pas bien réussi à le prononcer tout à l'heure.
Gestalt
thérapeute, c'est
parfait,
ça.
Parfait, c'est parfait.
Et ben, je vous propose directement de commencer. Et nous allons commencer directement par rappeler les termes. Et du coup, c'est parti.
Oui, alors pour les auditoristes qui ne seraient pas particulièrement informés par rapport à la thématique des transidentités, je vais juste faire un petit rappel de quelques termes de lexique. Donc on appelle transgenre une personne dont le genre ressenti ne coïncide pas avec le genre associé à la naissance. Donc on dissocie ici genre et sexe, organes génitaux. Parmi les personnes transgenres, il y a des personnes dites binaires, donc un homme transgenre ou une femme transgenre, et les personnes dites non-binaires. Maë, est-ce que tu aurais envie d'expliquer ce que c'est la non-binarité ?
Donc la non-binarité, c'est lorsqu'une personne ne correspond pas aux cases justement binaires que la société impose au départ, qui est la case homme et la case femme. Donc quand tu n'entres pas dans ces cases-là, on va dire qu'on peut être non-binaire. En même temps, il y a plein de dénominations que les gens vont choisir. C'est-à-dire que des fois, ça peut être gender fluide, ça peut être beaucoup d'autres choses aussi. Mais non-binaire, ça correspond à ça, en tout cas. Je sors de la binarité de genre.
Et donc, pour s'adresser à une personne non-binaire, quel pronom on utilise ? Puisque dans la vie de tous les jours, on utilise des pronoms. On dit « il » pour les hommes, « elle » pour les femmes. Comment on communique, comment on s'adresse à une personne non-binaire ?
Donc la question des pronoms, c'est pour moi intéressant. Ça parle de la question de l'expression de genre, comment une personne va exprimer son genre. Donc le prénom « il », c'est plutôt pour les personnes qui vont exprimer un genre homme. Et quand on va sortir de ces cases, donc le prénom « elle », c'est pour les gens qui expriment un genre femme, ben, il y a à créer en fait. C'est vraiment là la créativité qui va... En France, en fait, il y a pas, le prénom « yel » est un prénom possible. Mais en même temps, ça dépend vraiment aux personnes, comment les gens vont pouvoir se sentir et comment les personnes vont souhaiter qu'on les pronomme. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir demander aux gens, tiens, pour toi, c'est quoi les pronoms qui te conviennent ? Par exemple, pour moi, les pronoms, c'est elle, yel ou il, mais pas que il. Et on peut me genrer au masculin et au féminin, mais pas que du masculin.
Très bien. Et c'est vrai que certaines personnes non binaires utilisent des pronoms binaires ou des prénoms ou des pronoms neutres. Et c'est vrai que yel est le pronom le plus utilisé. C'est une sorte d'hybride entre il et elle, mais il en existe plein. Il existe aussi des néopronoms qui sont des pronoms inventés, mais ça serait encore une catégorie beaucoup plus longue. Donc dans cet épisode, on va se concentrer sur vraiment les rapports des personnes transgenres au milieu médical et psychologique. Quand on pense transidentité et milieu du soin, Forcément, on se pose des questions évidentes sur les difficultés d'accès aux soins quand on est trans et sur les violences et la transphobie qui peuvent être présentes dans le milieu médical. Chaque année, l'association SOS Homophobie publie un rapport sur les violences LGBT-phobes dans différents domaines. Donc moi, j'ai jeté un petit coup d'œil au rapport de 2024, qui a été publié donc il n'y a pas longtemps, le plus récent. Et lorsqu'on s'intéresse à la transphobie dans le milieu médical, on découvre ces chiffres. Donc en 2024, sur toutes les agressions LGBT-phobes dans le milieu de la santé qui ont été signalées à SOS Homophobie, 29% des victimes étaient des personnes transgenres et non-binaires, dont 13% de femmes trans, 7% d'hommes trans et 9% de personnes non-binaires. Donc forcément, on se pose des questions sur comment offrir aux personnes transgenres un accès aux soins qui soient sécuritaires et aussi comment ça se fait qu'il y ait autant de violences dans le milieu médical pour les personnes transgenres. Donc Maë, tu te considères comme une personne non-binaire. Est-ce que toi, tu pourrais nous parler, par exemple, pour commencer, de ton parcours de transition en tant que personne non-binaire ?
Oui.
C'est une vaste question.
C'est ça, oui. Pour moi, la question de l'homosexualité, par exemple, c'est quelque chose qui entre, en tout cas dans nos milieux actuels, en France, plus dans l'acceptabilité. Mais la question du genre, quand on n'entre pas dans ces cases qu'on avait nommées binaires, tout de suite, on va sortir de quelque chose qui va être très rude pour la société. Et donc, penser une non-binarité, penser hors de ces cases-là, va créer beaucoup de difficultés, à la fois pour soi et à la fois pour le monde autour qui va vouloir nous renormaliser. Donc la première question, c'est de pouvoir imaginer déjà, créer l'imaginaire. Parce que cette phrase, tu vois, un oiseau qui est né dans une cage ne sait pas qu'il peut voler. Donc c'est quand tu as vraiment un monde qui est très binaire. Toutes les représentations qu'on a autour de nous, c'est des représentations binaires. Et c'est ce qu'on voit que la société souhaite continuer quand on voit ce qui se passe en Amérique, avec Trump, ce qu'on voit ce qui se passe en Russie. Toute la question de du genre, quand tu commences à ouvrir un peu et ouvrir de la liberté, il y a des gens qui vont dire non, ça ne va pas, on va te remettre dans ces cases-là. Donc personnellement, la première étape, ça a été de pouvoir ouvrir quelque chose. Et quand je me suis rendu compte que je n'étais pas hétérosexuel, ça a été tout un parcours avec un parcours communautaire. Mais pour la question de la binarité, de la non-binarité, j'ai dû rencontrer des personnes trans, discuter avec ces personnes-là. Par exemple, un souvenir que j'ai, c'était une personne trans, une femme trans qui m'a dit: mais quand tu es attiré par une personne, eh ben, est-ce que tu es attiré par son sexe biologique, par ses organes génitaux, par la forme de son corps, par sa manière dont elle s'exprime? Et pour moi, cet endroit-là, ça, déjà, ça ouvre pour tout le monde un questionnement qui est de, en fait, qu'on s'en sente homme, femme, en fait, par quelles sont les personnes qui vont nous attirer? Et on peut ouvrir ça. Est-ce qu'on est dans des visions binaires ou est-ce qu'en fait, on peut ouvrir à autre chose? Et c'est la première question, c'est de pouvoir ouvrir ses imaginaires, ouvrir ses désirs et ouvrir ses propres réflexions personnelles. Donc moi, j'ai pu faire ça quand je suis allé en Amérique, parce que j'étais dans une relation avec une thérapeute non-binaire américaine, et que c'est cet éloignement qui m'a permis de pouvoir sortir des cadres que je m'étais mis en France pour pouvoir ouvrir des questions sur mon genre et me laisser la possibilité de respirer à cet endroit-là.
Ah, c'est vrai que la binarité de genre, enfin le genre binaire, c'est quelque chose qui est très sociétal déjà et qui est très qui dépend beaucoup des différentes sociétés. Par exemple, pour les natifs d'Amérique, il y a une notion de non-binarité qu'on appelle Two Spirits, qui est le fait d'avoir à la fois un esprit homme et un esprit femme. Et en fait, on se rend compte que c'est très occidental et c'est très aussi... Enfin, après, on pourrait divaguer là-dessus, mais c'est une vision très, très colonialiste et très occidentale, cette binarité du genre.
Ouais. Et pour moi, en tout cas, politiquement, ce que j'aime, c'est la pensée de Paul Preciado, qui permet de réfléchir. C'est un philosophe. C'est un homme trans qui a fait des livres, qui réfléchit sur ces questions-là et qui dit vraiment que lorsqu'on va transfuge de genre, lorsqu'on va passer d'une case à une autre, il va vraiment y avoir tout un système patriarcal qui va vouloir nous empêcher de faire ça. Parce que le système fonctionne sur, toi tu disais, j'ai oublié ce que tu venais de dire, mais le système fonctionne sur cette domination masculine et sur deux cases qui sont différentes et séparées pour qu'on respecte en fait ces sortes de cases. Et quand on va commencer à mettre ça en question, ça va pouvoir peut-être effondrer le système. Donc il y a une résistance très forte à ces endroits-là.
Oui, bien sûr. Et du coup, pour revenir un petit peu au sujet, toi qui es une personne non binaire, est-ce que dans ton accès au parcours de soins, tu as pu vivre des complications? Est-ce que tu as l'impression que ce n'est pas toujours évident d'aller consulter Est-ce qu'il y a cette appréhension de ne pas savoir si le professionnel de santé va être ouvert sur les sujets de la transidentité? Est-ce que...
En tout cas, dans le parcours, il y a vraiment quelque chose de devoir faire de la pédagogie aux professionnels qui ne savent pas.
Oui.
Donc, pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est juste un état de fait. C'est que les personnels qui ne sont pas formés, ben, on a besoin de faire de la pédagogie. Et donc, ce qui fait que les personnes non-binaires ou les personnes trans vont des fois avoir du mal à pouvoir aller dans des endroits où elles ne sont pas accueillies, où les personnes ne vont pas être curieuses de leur histoire et de leur regard sur leur genre. Et donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes, d'avoir des professionnels qui sont un peu conscientes, un peu formés. Et pour moi aussi, d'avoir des professionnels qui ont pu aussi faire des questions sur leurs propres évidences, qu'ils ont pu oser se questionner sur leurs propres évidences par rapport à leur représentation sur le genre.
Oui, bien sûr. C'est sûr que, du coup, en fait, les personnes trans et les personnes non-binaires, enfin, même si c'est un terme parapluie, mais les personnes trans se retrouvent à devoir porter un peu le poids d'éduquer les gens sur leur identité, ce qui peut être, je pense, enfin, j'imagine, assez fatigant. Après, je veux pas assumer de choses, mais qui doit être assez fatigant. Et c'est un peu ça, c'est de se dire, en fait, si on informait, si tous les professionnels de santé étaient formés déjà à accueillir des personnes trans, ça limiterait tellement d'expériences difficiles dans le milieu médical pour les personnes trans. Et en fait, je veux dire, l'accès aux soins, c'est juste un droit fondamental en France. Donc, tout le monde devrait y avoir accès de manière égale. Et malheureusement, il y a encore des problèmes qui persistent. Et d'ailleurs, je prends l'exemple de manière générale, mais il y a la médecine générale, mais il y a aussi tout le milieu de la psychologie, et il y a aussi tout le milieu de la gynécologie, par exemple. Enfin, il y a beaucoup de choses assez compliquées quand on est une personne trans dans ce domaine-là.
Je pense peut-être aussi, demander, parce que du coup, je vais repartir de mieux. J'étais plus demander aussi à Léna d'un point de vue extérieur, en tout cas, sur peut-être nous en dire aussi dessus, peut-être.
Oui, c'est vrai que concernant les parcours de transition et et l'accueil dans les milieux médicaux, j'ai un peu l'envers du décor, à mon petit niveau en tout cas. C'est vrai, je pense déjà il y a une réalité logistique. Par exemple, à Grenoble, il n'y a pas de centre dédié aux transitions. Donc, par exemple, il faut aller à Lyon, il faut s'y rendre. C'est déjà une première chose, c'est un premier coup. Ensuite, concernant l'ALD hors liste, qui est normalement accessible à tous et toutes, ce n'est pas forcément le cas. Le premier rapport de l'HAS en 2022 indique qu'il y a un peu moins de 9000 personnes qui y ont le droit. Et puis, ça dépend les soins et les activités demandées. Est-ce que ça se réfère à une réaffirmation de l'identité ou est-ce que c'est simplement esthétique, auquel cas, c'est pas remboursé? Il y a plein de petits questionnements comme ça que j'appelle logistique. Ça, c'est une première chose, une première étape qui fait que c'est déjà un peu difficile d'accès. Et après, il y a aussi l'accueil proposé par les professionnels de santé qui, en effet, sont clairement pas assez formés. Formés sur la question de l'identité, formés sur les problématiques de cette population. Là, en tout cas, en l'occurrence, pour nous, en orthophonie, on va avoir 2 heures sur la question. Donc nous, on est formés aux rééducations vocales. Mais ici, c'est plutôt une question d'éducation vocale parce que l'organe phonatoire va très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pathologie. Et donc, dans ces 2 heures-là, il faut à la fois découvrir les termes, comme on l'a présenté tout à l'heure, parce que tous les étudiants et étudiantes ne sont pas au clair là-dessus. Donc il y a déjà une première, un premier apprentissage sur, bah, voilà, sur comment accueillir ces personnes, comment bien les nommer, comment être bienveillant. Ça ne devrait pas être le cas, mais ça n'empêche que ça demande, ça nécessite un apprentissage. Et après, il y a la partie vraiment, comment on éduque pour modifier le geste vocal tendant vers le genre souhaité. 2 heures, c'est pas beaucoup. pour mon avis sur la question.
Mais en tout cas, en tant qu'étudiante, tu as déjà eu des personnes dans ton entourage, tu as déjà eu des témoignages dans ton entourage, au niveau, comme tu parlais des démarches.
Ouais.
Et...
Oui, les informations que je donne, c'est notamment dans le cadre de mon mémoire de recherche qui est sur la féminisation vocale. Donc c'est des infos qui m'ont été données par les participantes que je remercie de l'étude et les nombreux articles, les rapports que j'ai pu lire. Et aussi, je ne sais pas si vous connaissez le Grétis.
Ça ne me dit rien du tout, moi.
C'est une association médicale, on va dire, qui permet d'aider, d'accompagner les transitions, les parcours de transition. Cependant, ça reste fondamentalement médical. Et donc, pour le moment encore, très verticale comme démarche, paternaliste, on va dire. Et les retours que j'ai eus là-dessus, justement, des personnes concernées, c'est que parfois, puisque c'est médical, il y a le rendez-vous, le médecin, il a 15 minutes pour parler avec la personne, on ne rentre pas dans l'histoire de la personne, on n'essaie pas de comprendre pourquoi, qui elle est, et finalement, il y a une sorte de résignance dans le soin. La personne va accepter le parcours proposé par l'équipe médicale, un point c'est tout. Et cette résilience, elle n'est pas normale. Donc c'est ça, notamment les retours que j'ai, c'est le cas uniquement pour Grétis, hein, c'est pas le cas d'autres équipes médicales, hein, heureusement. Mais c'est vrai qu'on nous parle énormément en études de santé de repositionner le patient, l'entourage, la famille et la personne qui est accompagnée au centre de son accompagnement. Et là, on se rend compte finalement que même si c'est vraiment le cas dans d'autres domaines, là, ça l'est pas encore. Parce que peut-être, il y a déjà d'autres choses à mettre en place avant, malheureusement.
En tout cas, oui, comme tu le dis, il n'y a pas une vraie prise en charge, en tout cas un vrai accompagnement.
Ça, c'est dû au fait déjà que chaque transition est différente, elles sont toutes singulières, donc on ne peut pas poser un protocole et le proposer à tout le monde pareil. Ça, ce n'est pas possible et c'est très bien comme ça, il faut individualiser les accompagnements. Après, au-delà de ça, il y a beaucoup quand même de recommandations, notamment de la HAS, des guidelines qui nous viennent des associations américaines, hein, c'est souvent d'eux que ça part. Et donc là, on nous présente vraiment quelle méthode, quelle technique, que ce soit pour les différents types les différents niveaux de transition plutôt, donc quelles préconisations ont fait leurs preuves au niveau scientifique, mais ça reste que des recommandations, c'est pas obligatoire et donc ça dépend avant tout du patient, enfin de la personne.
Alors, merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais continuer, mais j'ai pas réussi à continuer. Mais merci beaucoup en tout cas. Oui, tu voulais rajouter quelque chose ?
Juste, j'ai l'impression que ce dont on parle, ça parle de la pathologisation de la transidentité. Mmh. Et qu'on vient d'un monde, il y a jusqu'à pas si longtemps, où c'était vraiment une maladie mentale. Ouais. Et où les médecins, et où en fait, se posaient comme experts et devaient dire à la personne ce qui était bon pour elle. Donc avec aucune écoute, c'est vraiment ça que tu dis. Et on a la trace. Oui. On est encore vraiment dans ces endroits-là. Donc en fait, les personnes trans ne sont jamais écoutées, en tout cas où c'est dur d'être écoutée pour qui elles sont, qui elles sont.
Complètement.
Et ça fait vraiment un rapport de pouvoir et de domination qui est vraiment insupportable.
Depuis 2010, ce n'est plus une pathologie officiellement, ça a été dépsychiatrisé. Dans le DSM-5 actuel, en effet, ça n'apparaît pas. La dysphorie de genre apparaît parce que c'est un mal-être énorme et donc c'est ça qui est, en termes de santé mentale, présent. Mais c'est vrai qu'il y a encore les traces de ce passage, quoi.
Pour revenir juste rapidement, parce que je pense qu'il y a sans doute certaines personnes qui ne savent pas ce que c'est la dysphorie de genre. Est-ce que tu veux l'expliquer ?
La dysphorie de genre, c'est ce que ressent la personne du fait que son corps n'est pas en adéquation avec le genre exprimé et ressenti. Et quand la non-occurrence entre les deux est très très forte, ça génère un mal-être significatif, je ne sais plus le mot qu'utilise le DSM-5, mais c'est assez dramatique comme phrase, et ça indique bien qu'on doit soutenir la personne et l'aider à traverser cette dysphorie et à mettre en place les moyens, justement, par un parcours de transition pour que cette dysphorie s'atténue.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que identité de genre et expression de genre, ce n'est pas la même chose. L'identité de genre, c'est le genre qui est ressenti par une personne, et l'expression de genre, c'est la façon dont elle exprime son genre. Ce qui fait que certaines personnes peuvent avoir une expression de genre masculine et une identité de genre féminine. Et inversement, c'est pour ça que c'est toujours bien de demander les pronoms à une personne qu'on ne connaît pas avant d'assumer des choses. Et il y a certaines personnes transgenres qui ne ressentent pas de dysphorie de genre, mais oui. La plupart en ressentent quand même. Mais voilà, c'est pas forcément une fatalité en soi, mais c'est le cas de beaucoup de personnes. Et il y a plein de choses qui sont mises en place, on en parlera tout à l'heure, mais il y a plein de traitements d'affirmation de genre qui sont mis en place pour aider ces personnes transgenres à mettre en adéquation leur expression de genre avec leur identité de genre et atténuer justement cette dysphorie dont on parlait tout à l'heure.
Et oui, j'ai... qu'est-ce que je voulais rajouter ? Je voulais juste rajouter un petit truc rapidement, mais mon cerveau n'a pas envie, malheureusement, j'ai l'impression.
Je t'en prie.
Après, je dis un... Oui, voilà, c'était juste ça que je voulais dire, avant qu'on continue à la suite. Tout ça a été, en tout cas, une partie pour les auditeurs et auditrices qui étaient sur la première émission. D'ailleurs, on vous invite à aller la voir. Des mots, en tout cas, peut-être que certains ont retenu. C'est une bonne chose, parce que du coup... Au moins, vous n'êtes pas perdu. Moi, grâce à tout ce qui a été dit la dernière fois.
Toutes les missions qu'on a fait sur la transidentité et la santé mentale des personnes trans est disponible sur le site de Radio Campus en replay.
C'est tout dessus. Donc, au moins, vous avez les deux. Là, actuellement, on est dans celle-là en direct. Mais l'autre était déjà avant. Et en tout cas, tout ce qui a été dit, en tout cas, une partie. Comme les rappels des termes ou autres, en tout cas, déjà été abordé, donc qu'au moins, vous n'êtes pas perdu, en tout cas, comme moi, un petit peu, en tout cas, en tout cas, j'ai eu de très très bonnes leçons grâce à tout ce qui a été dit, et oui.
Et juste pour synthétiser ces histoires de termes qui ont déjà été dits et redits, je trouve que l'outil qui s'appelle la licorne de genre, qu'on peut trouver sur Internet, est vraiment un outil qui est très intéressant, et je peux vraiment proposer aux auditeuristes qui n'ont pas regardé cet outil de pouvoir faire un tour sur Internet avec ça, parce que ça montre vraiment les quatre dimensions de la question du genre que tu as nommé les deux, qui étaient identité de genre, comment je me ressens, est-ce que je suis un homme, une femme ou autre, comment la question de l'expression de genre, comment j'exprime mon genre, avec la question de je suis plutôt masculine, féminine, les habits, les pronoms. Il y a la question relationnelle, vers qui je vais être attiré au niveau relationnel par le genre. Et la question biologique, c'est plus compliqué que juste un truc binaire, hein, la biologie. C'est vraiment aussi quelque chose qui s'articule dans une complexité, avec des choses qui sont mâles, femelles, mais au niveau chromosome, au niveau hormones, de manière plus complexe que juste une binarité.
Bon, en tout cas,
Je voulais juste dire, cette licorne du genre, elle est disponible, nous on en a à la cellule de lutte contre les discriminations de la fac. Et donc c'est un outil qui a été mis en place pour un petit peu évaluer tout ce qui constitue l'identité et l'attirance de quelqu'un, et pour aussi sortir de ces binarités de genre. Donc c'est des petits curseurs sur lesquels on peut se positionner et qui peuvent évoluer au fur et à mesure de nos vies, de nos parcours de transition, de nos parcours d'identité, etc. Mais voilà, juste pour dire, elle est trouvable aussi sur Internet. C'est un chouette outil.
C'est génial comme outil. Ouais, je connaissais pas du tout.
En tout cas, quand tu nous as parlé justement de l'icône du genre, j'avais posé justement la question des outils et j'y avais pensé grâce à l'émission de la dernière fois. Et Maëlle, tu as évoqué un mot, le mot hormone. Ça tombe bien parce que nous allons en parler, mais avant ça, faire une petite pause musicale. Nous revenons tout de suite.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8, vous venez d'écouter Sans contrefaçon de Mylène Farmer. Vous n'étiez pas en off avec nous, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient intéressantes. Mais là, nous allons continuer, nous allons entamer la suite, parce que la suite de la programmation, la suite des parties est tout autant intéressante. Mais avant ça, je vais quand même poser une question, parce que c'est Lisa qui a choisi la musique. Mais du coup, pourquoi ?
Pourquoi Mylène Farmer ?
Oui.
Mylène Farmer comme une évidence. Hein. Mylène Farmer, icône de la Pride, chantée à chaque marche des fiertés chaque année. Une icône queer, je pense, qui parle à beaucoup de gens et qui a beaucoup participé à la déconstruction du genre. Voilà, que je pense toute la communauté LGBT apprécie beaucoup. Voilà, donc ça fait très plaisir de l'entendre comme ça. Là.
Du coup, nous allons continuer parce que tout à l'heure, Maë a dit un mot qui était un mot de transition qui était impeccable.
De transition.
Et, pardon, un mot qui nous fait basculer jusqu'à cette partie-là qui est le mot hormone. Et nous allons en parler tout de suite.
Oui, on va parler des traitements d'affirmation de genre. Et donc, dans l'autre émission qu'on a fait, qui est disponible sur Radio Campus, j'avais mentionné, dans cette autre émission qui portait aussi sur les transidentités, cette idée que j'avais présentée comme des hormones qui sauvent des vies, en parlant notamment de la testostérone et de l'œstrogène, et de parler du coup de ces prises d'hormones qui permettent une affirmation de genre et donc qui permettent aux personnes transgenres de remplacer cette dysphorie de genre dont on parlait tout à l'heure, ce mal-être, par une euphorie de genre, en alignant leur identité avec leur expression corporelle. Donc identité de genre, expression de genre. Si vous avez retenu jusque-là, c'est super. Néanmoins, c'est important de prendre en compte que toutes les personnes transgenres ne veulent pas forcément prendre d'hormones. Pour diverses raisons qui leur sont propres, ça peut être juste que elles se sentent bien avec leur expression de genre, ça peut être que elles sont mineures aussi, ou qui n'ont pas accès à la prise d'hormones. Enfin, il y a plein de raisons qui sont propres à chacun et chacune et qui sont toutes légitimes. Il existe donc d'autres traitements d'affirmation de genre, et aujourd'hui on va parler de féminisation vocale avec Léna qui est ici et qui est du coup en étude d'orthophonie.
C'est ça.
Et qui va bientôt être orthophoniste spécialisée en féminisation vocale.
Alors il n'y a pas de spécialisation à proprement parler en orthophonie, okay. On n'a pas le droit, mais on a nos préférences. Et du coup, forcément.
Mais tu fais un mémoire en tout cas sur, sur la féminisation vocale.
J'ai axé ces deux années de master là-dessus.
Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Alors oui. Alors peut-être pour reprendre le lien avec l'hormonothérapie, en effet, il n'y a pas tout le monde qui veut en faire. La féminisation vocale, on l'appelle encore aujourd'hui comme ça, c'est le fait de vouloir changer de manière de parler, parce que c'est une question de voix, mais aussi de parole. La voix, ça sera vraiment la phonation, ce qui se passe dans la gorge, au niveau des cordes vocales dans le larynx. La parole, ça va être tout ce qui accompagne ce son émis. Pour tendre vers une parole dite plus féminine, selon la perception qu'en a la société dans l'époque donnée. Parce qu'on le verra, c'est fondamentalement une construction sociale, en effet, comme on le disait tout à l'heure. Donc, pour la féminisation vocale, c'est ça. C'est important pour les personnes transféminines parce que les hormones n'ont pas d'effet sur la voix dans le cadre du parcours de transition. Il y a un effet des hormones masculinisantes parce que c'est comme si on refaisait une mue, comme à la puberté. Donc, en fait, le larynx, il va prendre du poids, il va se masser. Enfin, j'ai la masse en tête, je ne sais pas le verbe en lien. Et donc ça va venir alourdir les cordes vocales qui du coup vont pouvoir produire un son plus grave. En revanche, à l'inverse, notamment l'œstrogène, va pas faire démasser le larynx. Il est déjà lourd. Là-dessus, l'hormonothérapie n'aura pas d'effet. Et donc, pour les personnes transmasculines, c'est aussi intéressant de faire une masculinisation vocale dans le cas des personnes qui ne souhaitent pas prendre d'hormones. Donc, il y a vraiment les deux versants, mais c'est vrai qu'en orthophonie, on rencontre plutôt des personnes transféminines.
Tout à l'heure, tu as utilisé le terme « construction sociale ».
Oui.
Donc, pour parler justement de ces manières de s'exprimer, etc. Est-ce que tu peux un peu développer sur qu'est-ce que, Je vais essayer de formuler ma question.
Je peux t'aider après si tu veux.
Ça va.
Je crois savoir.
Oui, non, mais qu'est-ce qu'on entend par... oui, on parle beaucoup du genre comme une construction sociale, que les comportements genrés sont appris et pas innés chez les enfants. Mais du coup, qu'est-ce que ça signifie par rapport à la voix? Qu'est-ce que ça prend en compte, cette construction sociale, par rapport à la voix?
Alors, est-ce que vous avez entendu la voix de Kim Kardashian? Pour donner un exemple plus concret.
Quelques fois, mais
on ne parle pas, il n'y a pas de souci, c'est un flop. Non, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, les voix américaines des femmes cis, elles ont beaucoup de fraille. C'est ce « ah » dans la voix qu'on va retrouver. Quelque chose qui, en France, peut être perçu comme sexy et donc féminin, par définition sociale. mais ça n'empêche que, il n'empêche qu'on n'a pas des voix vraiment comme ça. Donc la perception du genre vocal dépend du pays dans lequel on se trouve, en fonction de l'époque, en fonction de la société, des représentations qu'on a plus ou moins binaires, en effet, comme tu le disais tout à l'heure, d'un pays à l'autre, quoi. Et donc ça, on va le retrouver dans plein de paramètres acoustiques de la voix, acoustiques notamment, et de paramètres dans la parole. Donc il y a cette question du fraille qui est très présent chez les femmes cis américaines. Donc on pourrait se dire en orthophonie qu'on peut travailler le fraille si c'est un souhait de la personne, parce que c'est quelque chose que cette personne a envie de retrouver dans sa voix, que vraiment ça lui parle comme paramètre dans le timbre de la voix. Parce que ce qui fait l'identité vocale, c'est le timbre, en fait. C'est pas forcément, c'est très réducteur de dire que une femme parle aigu et un homme parle grave. Mmh. Ça, c'est très réducteur. Et en fait, c'est vraiment dans les résonances qu'on va retrouver dans tout le passage du son dans les différents organes phonatoires que le timbre va se construire. Et mais il y a aussi l'articulation. Certaines études montrent, mais pareil, c'est pas comparable d'un pays à l'autre, ça va être différent. Un débit plus ou moins rapide et un phrasé plus ou moins articulé. Les femmes cis en France auraient tendance à vraiment antérioriser les différents sons, les différentes voyelles et consonnes, à l'avant de la bouche. Alors que les hommes cis en France seraient plutôt en arrière. Donc c'est plein de petites choses comme ça, mais qui en effet, en fonction de la langue de l'article dans lequel ça a été fait, diffèrent. Par exemple. Mais je peux en parler 4 heures.
C'est très très intéressant et ça fait réfléchir du coup
complètement.
À beaucoup
c'est
de
tellement
choses.
Tellement en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, oui, avec ce ça. Que tu présentais, Maillet. Ouais. Même là, ça se retrouve.
Je trouve que c'est intéressant parce qu'on a vraiment ce stéréotype d'une voix aiguë, d'une voix grave,
et, voilà.
Et que tu ouvres toute une complexité et toute une épaisseur dans le timbre de la voix, dans la manière dont ça va fonctionner, qui va aussi un peu après parler du passing pour moi.
Oui.
Le passing, c'est-à-dire comment une personne passe pour quelqu'un de plus féminin, plus masculine ou autre.
En orthophonie, on parle donc de passing vocal, pas que physique, il y a aussi la voix. En effet, on reconnaît nos proches à la simple écoute de leur voix, il n'y a pas besoin de les voir pour savoir que telle personne est telle personne. Et en fait, le aigu et grave, ça vient de la hauteur de la voix. Ça, c'est une fréquence précise. Il y a plein de fréquences dans la voix, mais il y en a une grande, on va dire, qui permet de dire, voilà, cette personne, elle a une voix en, je sais pas, la 440. C'est faux pour une voix, mais pour se donner un ordre d'idée, c'est comme les notes en musique. Et en fait, on se rend compte dans les études que, parce qu'il y a les paramètres acoustiques qui comptent, mais il y a aussi la perception de soi à soi et la perception d'un juge externe à la personne en question. Et c'est ça qui compte, de se dire, ok, peu importe la hauteur de la voix, est-ce qu'on est perçu comme femme, comme homme, comme ce qu'on souhaite être identifié. Il y a des voix androgynes qui marchent très très bien aussi. Et donc les études qui parlent plus spécifiquement de cette évaluation perceptive, elles montrent qu'il y a des femmes trans perçues donc comme femmes, avec une fréquence très grave, une hauteur très grave. Et donc c'est pas ça qui a permis d'identifier à juste titre la personne.
Et je vais te demander aussi, en fait... Tout simplement, comment t'es arrivé à être orthophoniste en féminisation vocale? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours parlé? Ou en tout cas, comment ça a commencé?
Je pense pas de base. Moi, je suis plutôt en pédiatrie initialement. Et la rééducation vocale en pédiatrie, il n'y en a pas beaucoup parce que les pathologies de la voix, pour faire court, chez l'enfant, en général, elles sont transitoires. Donc il y en a un peu, mais c'est vraiment pas le but initial. Je pense que la voix, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Parce que c'est un sujet très varié, on va dire. Il y a vraiment cette question de l'identité. Elle nous permet de transmettre nos émotions, parfois indépendamment de nous-mêmes. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et de mis en avant, je trouve. Indépendamment de comment on s'habille, la voix, on ne peut pas la cacher. Donc elle traduit directement au locuteur, à l'interlocuteur qui on est. Indépendamment de si on le souhaitait le montrer ou pas. Bref, je suis en train de m'égarer. Ce que je voulais dire de base, c'était donc ça. Et j'étais en stage au laboratoire de psychologie et neurocognition à Saint-Martin-d'Hères, juste à côté. Et j'ai rencontré une équipe qui parlait d'endophasie. Donc ce sont la parole intérieure, le langage intérieur, les voix qu'on a dans nos têtes et comment elles sonnent dans nos têtes. Et là, je me suis dit, ok, je pensais pas que c'était un domaine de recherche, c'est quelque chose qui existe vraiment, il y a un truc à faire là concernant les transitions vocales. Et donc, je me suis lancée là-dessus. Je me suis dit qu'il fallait absolument creuser le sujet parce que ça n'avait pas encore été fait. Et donc, moi, je propose un protocole de parole intérieure comme entraînement pour accompagner en orthophonie les transitions de voix. Voilà.
Tu nous as dit tout à l'heure, dans un mois, normalement, c'est bon ?
Oui.
Donc, à partir de quand les personnes peuvent prendre rendez-vous avec toi, par exemple ?
Alors, à savoir qu'on a des listes, je pense que ça, vous le savez, il y a des listes de praticiens bienveillants, trans-friendly. Donc déjà, je conseille d'aller voir sur ces listes-là, je compte m'inscrire dessus. Et après, ben, ça sera à partir de septembre. J'ai d'autres projets pour cet été. et notamment, on a pour projet donc, avec l'association Adelfes, qui est donc l'association LGBT de Drôme-Ardèche, de construire une équipe médicale. Je m'avance un petit peu sur la question. Hein, si Lana m'entend, je pense que je ne sais pas si je devais le dire. mais donc, il y aurait cette volonté-là de pouvoir justement mieux accompagner par des associations de personnes concernées et de praticiens alliés. Point.
Tu peux nous en parler un peu plus de cette association Adelfes ?
Voilà, donc c'est Lana la présidente, c'est à Montélimar, ça se situe à Montélimar, mais ça prend vraiment le département entier et l'Ardèche. Donc c'est une asso qui a officiellement 2 ans et ça s'est extrêmement accéléré. Ça faisait longtemps qu'il y avait un besoin, il n'y avait pas de choses faites et là en 2 ans les démarches ont évolué énormément et là l'asso elle est sollicitée par un peu tout le monde. Et donc, surtout en Drôme, du fait que les plannings familiales sont en train de fermer. Alors, ça ne pallie pas du tout, mais je trouve que c'est un relais intéressant pour certaines problématiques.
On peut vous retrouver sur les réseaux ?
Bonne question. Je pense que oui.
Ok, super. Je fais juste un petit aparté. Donc, l'association adelf.s. Adelph, c'est un terme neutre qui serait l'équivalent de siblings en anglais, qui est le neutre pour frère ou sœur, et qui est beaucoup utilisé dans la communauté LGBT pour montrer une forme de solidarité, un terme neutre pour une sororité ou une fraternité entre les membres de la communauté et les personnes trans, sans exclure personne. Donc, tu disais, en effet, il y a des listes qui sont mises en place pour trouver des professionnels de santé qui sont safe pour les personnes trans. Pardon, j'ai un blanc.
Tu vas trouver, t'inquiète. Tu vas trouver.
Donc, il y a ces listes qui sont mises en place pour permettre aux personnes trans d'avoir un bon accès aussi aux soins médicaux, parce que comme on disait tout à l'heure, il y a des difficultés, il y a soit des formes de violence, soit des formes de manque d'information et du coup des besoins d'éducation des professionnels de santé sur les sujets des transidentités. Et toi, Maë, tu es aussi, tu es une personne non-binaire, mais tu es aussi professionnelle de santé, car tu es gestalt-thérapeute. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ?
Donc la gestalt-thérapie, je fais de la gestalt-thérapie, c'est une forme de psychothérapie relationnelle, donc ça se fait en relation. Mm-hmm. Et c'est quelque chose qui n'est pas dans le cadre reconnu, je ne suis pas psychologue, moi, mais après il y a des psychologues qui sont aussi gestalt-thérapeutes.
Okay.
Moi je ne suis pas psychologue, donc je n'ai pas ce diplôme-là. Par contre j'ai fait une formation longue de gestalt-thérapie dans un institut qui est pour moi vraiment très sérieux. Et donc maintenant, je suis co-directrice aussi de cet institut à Grenoble. Et l'idée, c'est vraiment en fait, on réfléchit sur l'accompagnement de manière un peu autre. C'est pour ça que c'est intéressant par rapport à ta question, mais en sortant du champ médical. C'est-à-dire, en fait, les personnes qui viennent voir, en fait, qui ont besoin de soutien à un moment dans leur vie, c'est des problèmes qui sont vraiment souvent très intriqués entre leur vie sociale, leurs expériences personnelles, leur rapport à la société, leur rapport à leurs relations, leur rapport à leurs angoisses. Donc c'est quelque chose qui dépasse vraiment le champ qu'on pourrait dire justement interne d'une pathologie. Souvent, quand on va mal, on a une crise, on se sent pas bien, on se sent rejeté, on fait un burn-out. Donc c'est des articulations en fait de choses qui vont s'associer avec quelque chose de soi et quelque chose de la société ou quelque chose des relations. Par exemple, j'ai un désir, je suis dans un couple hétéro et je commence à avoir des désirs homo, ou alors je suis dans une relation de couple exclusive et ma compagne décide de pouvoir ouvrir la question du couple. Je vais faire une crise de sens existentiel, je ne sais pas pourquoi. Donc toutes ces dimensions-là, on ne peut pas les réduire à une dimension purement médicale. Et même les gens qui ont des pathologies médicales vont aussi être prises avec les éléments de la société et de la relation, de toutes les relations aux autres. Donc quelque part, dans l'accompagnement que je fais, je privilégie la relation à l'autre. Et c'est un accompagnement dans lequel, de manière fondamentale, je décide que je ne sais pas ce qui va être bien pour l'autre. Et ça m'évite de prendre une position d'expert. Parce que souvent, quand on est dans un registre médical, on va décider qu'on est un expert, une experte de la vie de l'autre. Et qu'on va vouloir savoir, faire un diagnostic pour savoir ce qui va être bien pour l'autre, pour que l'autre avance dans sa vie. Moi, je fais le choix, pour vraiment des raisons éthiques, de pouvoir trouver un accompagnement qui va sortir de cette dimension d'expertise. C'est-à-dire que mon expertise, ce n'est pas sur la vie de l'autre. Mon expertise, c'est sur être avec l'autre, dans la relation, en présence, sans vouloir savoir ce qui est bien pour l'autre, mais en pouvant l'accompagner dans des zones intrigantes, troubles, étonnantes, sur lesquelles il n'y a pas nécessairement de sens. Et ça va se faire dans la relation à l'autre. Si on prend grossièrement une sorte de différence avec la psychanalyse, après il y a des psychanalystes qui sont très relationnels, mais si on prend les caricatures un peu de la psychanalyse, on va vouloir essayer d'aider la personne à comprendre un peu son existence, et pouvoir se réfléchir sur, mettre du sens sur comment elle a été dans son passé. Et moi, en tant que gestalt thérapeute, dans mon approche, je cherche plutôt à être dans la relation avec l'autre, et pas vouloir tout de suite mettre du sens, mais pouvoir vivre avec la personne ce qui se passe dans la coprésence. En faisant l'hypothèse qu'on est tout le temps connecté, et que dans notre hypothèse fondamentale, là, c'est que dans notre expérience de vie, on est vraiment connectés les uns et les unes aux autres. C'est-à-dire que là, quand je regarde ton regard, quand je vois ta posture, ça va transformer mon expérience. Et que c'est comme ça qu'on fonctionne dans la vie de tous les jours. Et donc l'idée, c'est d'avoir fait un travail sur moi, un travail long, pour pouvoir faire de l'attention sur ma manière d'être en relation et pouvoir travailler avec la personne quelque chose de la relationnelle pour pouvoir l'aider à vivre et à apprendre à être, à exister dans la relation. Ça m'évite d'avoir vraiment un pouvoir, un savoir sur l'autre, mais ça me permet de proposer un espace-temps dans laquelle la personne, elle peut exister, parler de ses troubles, parler de ses questionnements, échanger avec moi. Je vais pouvoir parler à des fois de mes émotions en face de la personne, et ça va être des espaces assez privilégiés où on va pouvoir exister de manière vraiment dans notre altérité, et ça va pouvoir permettre à des gens de construire vraiment une expérience différente de la vie, de pouvoir les aider à augmenter leur conscience de l'être, de la présence, et donc de pouvoir après faire des choix peut-être plus éclairés. En tout cas, il y a des gens auxquels ça convient. Et notamment, la question des... Alors, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, fonctionne avec tout type de personnes, des personnes qui vont avoir des pathologies ou des personnes qui vont avoir juste des troubles des questionnements, vraiment des grosses difficultés, et qui vont vouloir le travailler, pas dans un travail de problème-solution, mais dans un travail plus de relation et de présence à elles et aux autres. Et pour les personnes trans, qui sont des personnes qu'on a beaucoup voulu infantiliser, médicaliser, psychiatriser, c'est vraiment une approche qui, pour moi, me touche beaucoup. Parce que je ne suis pas là pour savoir si la personne est trans, pas trans. Je ne suis pas là pour savoir comment elle devrait être trans, comment elle devrait être dans son corps, quelles opérations ou pas elle doit faire. Je suis là pour écouter avec cette personne, et ce qui me permet d'accompagner pendant, je sais pas, 6 mois, une femme trans qui cherche à voir est-ce qu'elle veut faire telle opération. Pour quelles raisons elle veut le faire, comment elle se sent dans son corps actuellement, explorer vraiment des endroits de sensation, de présence, et pouvoir aller très lentement, et ou à son rythme. Moi, je ne suis pas là pour dire il faut aller vite, il faut aller lentement. Je suis là pour explorer avec elle son expérience de vie, avec elle, son corps, ses expériences, ses pensées, et aussi la relation aux autres.
Oui, et ça doit aussi faire du bien pour les personnes trans d'avoir une professionnelle de santé qui est transgenre aussi. J'imagine. Après, enfin, je sais pas.
C'est toujours une question, tu vois. Est-ce qu'il faut être noir et avoir un cancer pour accompagner une personne qui est noire et qui a un cancer?
Non, mais c'est sûr que là, on se pose pas trop la question de si la transidentité va être acceptée par le professionnel de santé.
Voilà, ça permet de rebondir sur le mot safe qui a été dit juste avant. Pour moi, il n'existe pas d'espace safe. Moi, je suis sur une liste qui s'appelle Psy Située, dans laquelle on tente de mettre une conscience sur les discriminations psychosociales qui existent et de ne pas tenter de les reproduire dans notre cabinet. Mais en fait, je ne vais jamais être safe. Je vais toujours avoir des malgré moi, on a des fonds de racisme, on a des fonds de transphobie, d'homophobie. Et même quand on est des personnes trans, on a aussi ça parce que ça transpire dans tout l'espace social. Donc la question, c'est de vouloir se mettre au travail. Donc c'est une attention pour se mettre au travail sur une attention aux autres. Et peut-être que je vais faire des choses qui ne vont pas être safe, mais l'idée, c'est qu'on va pouvoir en parler. Et que je ne vais pas remettre sur la personne la faute. Et je vais pouvoir regarder aussi mes propres biais à moi en relation avec l'autre.
C'est extrêmement intéressant.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, mais on a tellement de discriminations internalisées et de choses du fait de toute l'histoire, tout le côté historique déjà du pays dans lequel on vit, tout le passé assez lourd qu'on porte, mais aussi parce qu'on est éduqué dans une société avec certains codes. Et c'est vrai que, je pense qu'il reste toujours des grains de sable, des choses qui ne peuvent pas partir.
Oui, c'est hallucinant. Il y a une étude de psychosociale qui a été faite dans deux pays, en France et dans un autre pays, j'ai plus le souvenir précis, où on montre à des enfants de 4 ans deux figures violettes, une qui est assez menaçante sur l'autre, mais pas du tout genrée. Et à 4 ans, les enfants, quand on leur montre ces figures, disent « bah oui, c'est deux personnes ». À 5-6 ans, les enfants ont intégré que c'est l'homme qui va être menaçant sur l'autre personne. Ça transpire dans tout notre rapport social.
Il y a énormément de choses. Et puis de toute façon, enfin, je veux dire, on est éduqués comme ça. Il y a deux grandes formes de sociabilisation dans l'histoire d'un enfant. Il y a la famille et l'école. C'est les grandes choses qui influent sur quelque chose. Il y a une autre recherche qui a été faite, pareil, je n'ai pas le nom, j'avoue que voilà, qui est le test de la poupée sur les enfants. Donc on donne à des enfants en bas âge deux poupons, un blanc, un noir, et on leur demande de choisir lequel ils préfèrent. Et tous les enfants, y compris les enfants noirs, choisissent le poupon blanc. Et c'est lourd de vérité, en fait, parce que on se rend compte de cette importance de l'éducation et des rôles. Et on a beaucoup parlé durant cette émission là de construction sociale. C'est ça, c'est toute une question de construction sociale. Et c'est bien d'avoir des espaces de thérapie aussi pour réussir à être avec des professionnels de santé qui, en tout cas, se remettent en question sur ces sujets et qui s'ouvrent à toutes les problématiques pour se dire en fait, je suis là pour être un professionnel de santé. Et donc, je ne suis pas là pour juger le genre de mon patient, son genre, son orientation sexuelle, peu importe. Je suis là pour aider mon patient. Et pour moi, c'est la priorité qui devrait être dans...
Oui, complètement.
Enfin, chez tous les professionnels de santé, ça devrait être... en fait, tu es là pour aider quelqu'un à aller mieux, donc il faut que tu te concentres là-dessus. Depuis ce qu'on voit, depuis le début, on voit qu'en effet, c'est pas évident. Oui. Mais on y arrive de plus en plus. En tout cas, ça évolue de plus en plus. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'au centre de santé de la fac, il y a toute une équipe qui est très chouette et qui est sécuritaire pour les personnes trans. Et voilà, donc faut pas hésiter à aller au centre de santé de l'UGA qui est situé à Muse et qui accueille tout type de personnes et qui est là avant tout pour vous aider à aller mieux. Donc c'est l'essentiel. Et également, il y a un dispositif de signalement qui est mis en place à l'université Grenoble-Alpes, qui est, donc si vous cherchez très simplement sur internet, dispositif de signalement UGA, si vous êtes témoin ou victime de violence, harcèlement, en tout genre sur le campus, même venant de la part de professeurs ou de personnel de l'université, vous pouvez utiliser ce dispositif, ce questionnaire, pour après être accompagné dans les démarches nécessaires ou juste pour parler à quelqu'un, en fait. Voilà, c'est important de le préciser, donc je faisais juste ce petit aparté pour préciser ça.
Tout a été précisé. D'ailleurs, nous allons arriver sur la fin de cette émission, mais j'ai une dernière question pour vous deux, Maë et Léna. Où est-ce qu'on peut, où est-ce que votre cabinet, ou en tout cas, vous, ce sera, où est-ce que vous situerez vous
pour, où vous retrouvez quoi.
Voilà, où vous retrouvez finalement pour venir en tant que patient.
Alors pour ma part, ce sera par le biais de l'association Adelphes, directement. Pour les modalités, on verra ensemble, c'est plus sympa.
Moi, j'ai un cabinet en ville, mais après, je n'ai pas de place actuellement. Donc, on peut trouver sur mon site internet êtreavec.fr les informations sur mon site, mais je n'ai pas de place. Je ne peux pas prendre de nouvelles personnes actuellement.
Eh bien, merci beaucoup.
Victime de son succès.
Dans tous les cas, il y aura toutes les informations concernant Léna, concernant Maë, dans notre bio, du coup, de notre podcast quand il sera en ligne. Tout sera mis, même peut-être s'il y a pour le dispositif de signalement, peut-être qu'il y aura aussi un lien. Nous arrivons, pardon, j'ai la voix un petit peu morte. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous remercions tout le monde autour de cette table, autour de ce plateau. Merci Maë pour être venu, pour avoir consacré ton temps sur les antennes. Merci à toi. Merci à Léna aussi pour être venue également.
De rien, merci à vous.
Et merci aussi à Lisa qui a co-animé avec moi sur les deux dernières, les deux émissions qui sont arrivées, qui étaient là.
C'était un plaisir. Merci Oscar, merci Radio Campus.
Merci à tout le monde. Nous remercions notre technicien qui était Arnaud. Arnaud qui était à la technique, merci à lui. C'était l'apérophonie sur Radio Campus 90.8.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble ! Sur quoi ? Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !